Vous êtes sur RTL. Pascal Praud sur RTL.
Au Brésil, 3 personnes décèdent du Covid-19 par minute en cause le variant P1 et de plus en plus de voix s'élèvent pour supprimer les vols en provenance du Brésil afin d'éviter la propagation du variant brésilien de la Covid en France. Alors nous sommes avec Alexandre qui est infirmier en réa à Metz.
Oui, tout à fait.
Rebonjour Alexandre et qui voulait s'exprimer sur ce sujet.
Bah écoutez, pour moi, je ne comprends toujours pas qu'on puisse laisser les frontières ouvertes alors qu'on sait très bien ce qui se passe au Brésil, alors que ça fait un an qu'on est confiné, qu'on est enfermé, qu'on nous prive de toutes nos libertés, et je n'arrive même pas à comprendre que ce soit possible. Je peux même et après, il faut pas s'étonner que les Français ne respectent plus rien. On est complètement désabusés, vous savez. Un jour on nous dit blanc, un jour on nous dit noir. Vous allumez la télé, vous tombez sur Gilbert Deray. Si vous croisez une corde, vous vous pendez. Je suis désolé.
Gilbert Deray, qui est néphrologue, tout le monde ne le connaît peut-être pas, mais effectivement,
oui,
il est.
À force, mais je ne savais pas que le Covid, ça.
Assez
ça
alarmiste.
Je suis en réno. Voilà. Moi, vous savez, le sensationnel, j'en peux plus, quoi. Quand je vois à la télé les services de réanimation, je sors un peu du sujet, mais qu'ils mettent un patient en ventral qui est intubé, ils sont 6 à 8 infirmiers ou soignants pour le tourner. Je vous assure, nous on le fait, j'ai les fait hier encore, il y a un médecin et 2 infirmiers, quoi. Mais c'est toujours dans le sensationnel, c'est hallucinant, quoi.
C'est-à-dire que, attendez, que je comprenne bien, vous dites que lorsqu'on voit dans une salle de réa un reportage à la télévision, il y a trop de personnes pour s'occuper d'un malade, c'est ça?
Mais quand on met un patient en ventral, écoutez, je ne travaille plus en France. J'ai travaillé en Belgique, je travaille au Luxembourg. Je vais vous avouer que honnêtement, moins on est, mieux c'est.
Oui, parce que c'est pas du tout.
C'est largement assez.
Oui, alors c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Moi, je suis jamais allé dans une salle de réa de ma vie.
Écoutez, mettre un patient en ventral, il suffit que l'anesthésiste réanimateur soit à la tête pour s'occuper du tube et de la voie centrale, on va dire, donc c'est le cathéter qui est en jugulaire ou en sous-clavière, et 2 infirmiers pour tourner, et c'est assez. Et je vous assure, j'ai pas un gabarit de déménageur.
Bon.
Je fais pas 120 kilos.
C'était en tout cas une parenthèse dans ce que vous disiez sur le variant brésilien et sur votre incapacité à comprendre au fond la situation.
Oui, voilà, on est complètement désabusé. Moi, j'ai ma fille de 17 ans qui peut plus faire de sport depuis 6 mois, qui est malheureuse. Tous les jeunes, on les empêche de sortir, mais on se rend compte que ça change rien.
Mais c'est ça qui est formidable d'ailleurs, parce que parlons du Brésil, c'est très intéressant le Brésil. Tout le monde dit le Brésil fait n'importe quoi. Le Brésil ouvre Bolsonaro et montré du doigt, alors que au Brésil la situation est plus compliquée, c'est-à-dire que les gouverneurs parfois font ce qu'ils veulent et même souvent ce qu'ils veulent et ne font pas ce que veut précisément Bolsonaro. Mais c'est un pays de 220 millions d'habitants. Il y a 350 000 morts. Nous sommes d'accord. Donc le rapport de morts par habitant est quasiment le même qu'en France.
Oui, on serait à 300 000 morts à peu près. 350 000 ou 320
000
morts.
C'est ça qui me fascine toujours. Moi, on m'explique que le Brésil, c'est une catastrophe, et sans doute ça l'est. Je veux bien croire, hein. Je crois ce que j'entends. Mais à l'arrivée, le nombre de morts par habitant est quasiment le même qu'en France.
Si vous faites le ratio avec les États-Unis, ce sera pareil. Si vous faites le ratio avec les États-Unis par rapport au nombre d'habitants, on sera à peu près pareil aussi. C'est à ne rien y comprendre, mais je pense que tout. Et puis, franchement, je suis désolé, Pascal, de vous le dire. Mais arrêtez d'inviter tous ces médecins à la télé. Quoi.
Oui, alors ça, c'est autre chose. Mais pour terminer sur le Brésil, parce que j'ai un peu, si vous me permettez, travaillé l'affaire, le Nord-Est est fermé, par exemple. On a l'impression que c'est monolithique, le Brésil. On a l'impression que Bolsonaro décide de tout là-bas. Ben non, il y a des gouverneurs qui sont en opposition même avec Bolsonaro. Et par exemple, le Nord-Est, ben, il y a couvre-feu, il y a confinement, les commerces sont fermés, etc. Donc la réalité telle qu'elle est traduite en France sur le Brésil n'est pas non plus... L'exacte vérité.
On ne peut pas non plus comparer le Brésil avec nous. On n'a pas autant de bidonvilles que chez eux, j'imagine.
Bien sûr, c'est effectivement. Donc, et puis une population sans doute plus jeune au Brésil qu'en France.
Voilà, on peut rien comparer. Vous savez, les États-Unis, c'est exactement pareil. C'est les gouverneurs qui décident des normes au niveau de la santé dans chaque État. C'est pas Donald Trump. Donc vous savez, c'est vraiment. Je vous assure, moi qui habite en province, je suis comme beaucoup de provinciaux, on est complètement désabusés. Et on n'écoute même plus ce qu'ils disent.
Bah, pourquoi seriez-vous plus désabusé en région ou en province qu'à Paris? On est comme vous.
Parce que, oui, mais je vous assure que quand on regarde la télé, on a plutôt l'impression de ne pas être français. Quoi. Vous comprenez ce que je veux dire?
À peine.
Moi, je sens une différence, vous savez. C'est simple, on voit que des médecins parisiens, que des grands professeurs à la télé. Honnêtement, j'ai vraiment pas. Et puis, les décisions qui sont prises ne sont pas prises en fonction de notre vie de tous les jours, vous savez. Moi, quand il y a un couvre-feu à 18h ou à 19h, vous allez dans un supermarché à 18h, vous faites la queue, pendant une demi-heure, tout le monde est collé. C'est des choses, mais c'est sûr que les gens qui nous gouvernent, qui font ces décisions-là, n'ont pas la vie qu'on a. Hein. On est fermé à 18h. Les gens qui travaillent la semaine, le week-end, les supermarchés sont pleins. Hein.
Bah merci Alexandre de ce premier témoignage. Et pour être encore plus précis, je vous parlais du Nord-Est. Par exemple, le Sahara, qui est un état du Nord-Est, le Sahara, pas sûr que tout le monde le connaisse ici en France, bah est complètement fermé, complètement confiné. Et c'est le gouverneur qui l'a décidé. Et évidemment, il n'est pas en accord sur ce point avec le président Bolsonaro. Une pause, première pause. Greg Caranoni est là, que je salue.
Bien sûr, bonjour à tous.
On parlera football tout à l'heure également, parce qu'à 20h45 ce soir, c'est le chef qui sera là. Christian Olivier, avec Xavier Domergue, pour le grand match Bayern, quoi, PSG-Bayern, puisque c'est au Parc, commenté par Philippe Sanfourche.
Quelle belle équipe.
Exactement, et nous écouterons tous, parce que le PSG ce soir peut être en demi-finale de la... de la Ligue des Champions.
Vous nuancez, hein ? Vous ne vous mouillez pas trop aujourd'hui.
Mais non, parce que je suis nul en pronostic. Donc à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 13h10 avec Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La France se protège-t-elle assez du variant brésilien ? Actuellement, il représente 0,4% des contaminations dans notre pays. Faut-il vraiment s'en inquiéter ? Le professeur Rémi Salomon de l'assistance publique des hôpitaux de Paris était l'invité de RTL Petit Matin avec Julien Cellier.
Il est probablement plus contagieux que le variant britannique qui, je vous le rappelle, lui-même était plus contagieux que le précédent, la souche historique. Donc si on lui laisse le temps, il va probablement rentrer dans une phase de croissance rapide, voire exponentielle.
Et des mesures ont déjà été prises sur le nombre d'arrivées du Brésil chaque semaine, avait rappelé dimanche dans le grand jury sur RTL Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
D'habitude, vous avez près de 50 000 personnes qui arrivent, on est à 1 000 aujourd'hui. Vous voyez que ça n'a aucun rapport. Et puis, vous pouvez suspendre des vols, mais à ce moment-là, il faut que ça soit suspendu dans toute l'Europe. Parce que sinon, les gens qui ont un vrai besoin, ils vont passer par ailleurs. Donc, on a été très sérieux sur la fermeture des frontières. D'ailleurs, on a très peu de cas du variant brésilien qui se développe en France.
Mais ça veut dire ?
On ne peut pas faire croire que les frontières sont grandes ouvertes, ça n'est pas vrai.
Et ça ne s'arrêtera jamais, ces histoires de variants, déplore Gérard sur nos réseaux sociaux. On ne sera jamais tranquille, et oui, vous avez raison Pascal, c'est sans fin. Et c'est étrange quand même, nous dit Christine, on croit à chaque fois pouvoir s'en sortir, et là, bam, des variants qui arrivent de partout. Et pour Jacqueline, la priorité, c'est de suspendre les vols avec le Brésil. Il y a bien longtemps que cela aurait dû être fait.
Alors Clément Beaune, que vous venez d'entendre, il est secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Et sa réponse d'ailleurs est formidable. Parce qu'au fond, ce qu'il nous dit, c'est que chaque pays attend que l'autre suspende les vols. Et cette histoire, elle montre une nouvelle fois, c'est un symbole, un de plus, de la paralysie de l'Europe. C'est-à-dire que c'est ce qu'il dit, bah oui, il faut que tout le monde fasse la même chose. Mais tu peux pas appeler à ce moment-là les gouvernements et prendre une décision commune en 24 heures ? C'est impossible de faire ça ? Eh ben non. Manifestement, c'est impossible de le faire. Donc, les avions arrivent du Brésil. Nous sommes avec Salim. Bonjour.
Oui, bon, Pascal, j'espère que vous allez bien.
Eh bien, écoutez, je vais bien, mais je suis un peu inquiet, pour tout vous dire, parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que c'est sans fin.
Bah, moi, je suis inquiet, je ne vous cache pas. Hein. Quand on refait l'expérience du variant anglais, ma femme m'avait dit « Ah, t'as vu la télé, il parle d'un variant anglais ?» Je lui ai dit « Non, mais ça, c'est un truc, c'est juste parce qu'on a peur, etc. » Finalement, c'était très sérieux. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas de nos expériences. Aujourd'hui, il y a un variant brésilien, il y a un grand risque, on arrête les frontières. Et pourquoi on va attendre tous les pays pour qu'ils disent « Ah, attends, moi je vais attendre en Espagne, etc. » Regardez la décision qu'elle prend. Elle n'attend personne. C'était la première, si je ne me trompe pas. Faire des cas, stand-by pour l'instant jusqu'à ce que je vérifie.
Salim, on va sécuriser la ligne parce qu'elle n'est pas très bonne et on ne vous entend pas parfaitement. Je suis vraiment désolé. Donc Cédric, qui est policier à l'aéroport, va pouvoir peut-être nous éclairer comment ça se passe lorsque les gens arrivent, notamment du Brésil. Bonjour Cédric.
Bonjour Pascal.
Racontez-nous, vous êtes de la police de l'air sans doute ?
C'est ça. Alors, comment ça se passe ? Ben évidemment, oui, le secrétaire d'État a bien résumé. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de personnes qui rentrent, mais les frontières sont quand même des gruyères encore. Il ne faut pas se leurrer. Il faut une frontière terrestre avec le Brésil qui s'appelle la Guyane. Donc, les gens qui veulent venir en France, ils viendront quand même, et qu'ils soient porteurs du virus ou pas, ils viendront. Le seul problème qu'il y a, c'est vraiment ces transitions qu'on a entre la France et l'Europe. Et moi, je peux vous donner un cas. Au lieu d'avoir 4 vols de Rome et 4 vols de Madrid par jour, qui sont au tiers vide, voire à moitié vide, on n'a qu'à les mutualiser, les formaliser pour que ça soit plein, et les contrôles seront beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides.
Oui, parce que si quelqu'un, effectivement, si on ferme la ligne Paris-Rio, par exemple, la personne peut faire Rio-Madrid et Madrid-Paris.
Et Madrid-Paris,
donc
oui.
C'est ce que
et
vous si voulez dire aussi,
Paris,
bien sûr.
Si on a un Paris-Rio par jour, c'est jouable. C'est jouable pour tout le monde, pour les services de santé, pour les services d'ordre de la police aux frontières que nous sommes. Et c'est jouable. Mais quand vous avez après un 4 ou 5 Paris-Rome, Paris-Madrid en plus par jour... C'est pas jouable. Les contrôles ne sont pas jouables. Et la tension, elle monte dans les aéroports à cause de ça.
Mais c'est pour ça qu'à un moment, on va se poser de savoir si on ferme les frontières, mais complètement les frontières aériennes.
Alors, on
ne peut pas d'un côté enfermer les Français qui subissent des restrictions comme ils n'en ont jamais subi, et faire rentrer de l'autre côté des variants sur le sol français qui vont encore produire d'autres restrictions pour les Français. Enfin, on marche sur la tête.
Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Le seul problème, c'est pas cette démarche-là, je pense, qu'il faut faire. C'est pas fermer les frontières comme là vous le dites. Pour moi, c'est fermer l'État français aux étrangers, pour l'instant, qui sont porteurs d'un passeport étranger.
Oui, on dit la même chose. Effectivement, les ressortissants français, il faut trouver une solution pour qu'ils rentrent.
Non, parce que si vous coupez les frontières, les ressortissants français, sauf cas impérieux, et des cas impérieux, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Il faut vraiment limiter même ces cas.
Il faut vraiment
interdit. Pour l'instant, et je ne suis pas du tout extrémiste ou pour liberticide, empêcher tout le monde de bouger, bien au contraire. Mais il faut que pendant un mois et demi, deux mois... Les mesures soient fortes, concrètes, et puis appliquées tout de suite. Là, on est encore dans l'action. On n'est pas dans l'action, on est dans la réaction par rapport au Covid. On n'agit pas. On attend que les autres fassent pour que nous fassions derrière.
Exactement, c'est le principe de l'Europe. Alors, je rappelle que vous êtes à la police de l'air, donc vous avez un regard peut-être plus... expérimenté, plus expert en tout cas de ces situations-là, puisque aujourd'hui c'est combien de personnes qui rentrent? Vous êtes à Roissy ou à Orly? Roissy?
Ah, je préfère pas vous le dire.
D'accord, bon.
Mais là j'ai vérifié sur le territoire français aujourd'hui, en ressortissant, parce que bon, on a aussi les Français qui rentrent, on va être à peu près à 1400. Et de l'Amérique du Sud complète, parce qu'on parle du syndrome brésilien. Mais il ne faut pas oublier que le Brésil, ils ont des échanges avec le Pérou, le Nicaragua, enfin toute l'Amérique centrale et du Sud. Et tous ces pays-là viennent aussi. Hein.
Ben merci Cédric, merci de ce témoignage.
Et à Paris quand même.
Allez Paris, dites-vous. Bah oui, allez Paris, on espère. De toute façon, Paris, ce soir, et on sera avec Alexis Menuge tout à l'heure. Comme le PSG a marqué 3 buts à l'extérieur, il faut... sans doute que le Bayern, pour se qualifier, gagne par 2 buts d'écart. C'est-à-dire qu'un 0, ça ne suffira pas. 2-1 pour le Bayern, ça ne suffira toujours pas. Parce qu'en cas d'égalité, comme vous le savez, le but à l'extérieur compte double. Uniquement en cas d'égalité, bien évidemment. Donc, il faut que le Bayern gagne 2-0. Est-ce que c'est possible ou pas? Nous ne l'espérons pas. On espère voir Paris en demi-finale de Ligue des Champions.
Et pour suivre tout ça, Pascal, ce soir,
20h45,
RTL.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous voulez qu'on fasse un peu de culture, Greg Caranoni?
Avec plaisir, j'adore ça.
Le 13 avril 1695, disparaissait Jean de La Fontaine. Quelle est votre fable préférée de Jean de La Fontaine, qui est sans doute le plus grand styliste français?
La cigale et la fourmi, peut-être?
Peut-être, mais en tout cas,
la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. On n'a pas le temps, non?
Mais pourquoi pas? Eh bien, écoutez, vous venez de lancer l'idée aux auditeurs qu'ils nous fassent une fable, si j'ose dire, s'ils en ont envie, avec le foot et le Covid. Ça nous changera. Est-ce que Salim, nous avons retrouvé Salim?
Oui, bonjour Pascal.
Rebonjour Salim.
Vous m'entendez mieux?
Je vous entends mieux. Dites-nous tout sur ce variant brésilien.
Vous savez quoi, ce variant brésilien, pour moi, aujourd'hui, si on me dit, Salim, vote pour le Frexit, je vais voter. Parce que quand je compare l'Angleterre avant le Brexit, tout le monde se moquait un peu d'eux en disant ils sont à part. Regardez, aujourd'hui, ils prennent des décisions tout seuls, ils n'ont pas besoin d'attendre qui que ce soit. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en Europe, c'est l'Europe qui décide. On doit attendre tout le monde pour prendre une décision. Franchement, il y en a marre. Il y a plein de pays dans le monde qui ont fermé du jour au lendemain les frontières parce qu'ils ont eu peur. Je crois pas, je ne sais pas pourquoi la France dit oui, mais il faudra attendre les autres pays, etc., etc. Franchement, aujourd'hui, l'Europe, pour moi, c'est devenu. Je sais que c'est pas le sujet, mais voilà, pour dire, il y a un variant. Au début, le variant anglais, on le prenait pas au sérieux. Moi, le premier, regardez aujourd'hui le résultat. On doit le prendre au sérieux, le variant brésilien. Sinon, on va se retrouver encore une année à refermer. Oui, mais le variant brésilien, etc., etc. Et on va voir les politiques à la télé qui vont expliquer. Oui, mais on savait pas. Oui, mais attendez. Oui, mais on a fait ce qu'il fallait, etc. Prenez les décisions aujourd'hui, messieurs. Le Brésil, voilà, je suis désolé pour tous les Brésiliens, mais du jour au lendemain, on ferme. L'Algérie a fermé il y a un an les frontières. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gérer les malades, et c'est le cas. Ça fait une année que je n'ai pas vu ma maman. C'est la vie, c'est comme ça.
C'est-à-dire qu'en Algérie, aucun vol n'arrive.
Alors, c'est uniquement les vols de rapatriement. C'est-à-dire,
ça, c'est intéressant.
C'est des vols, c'est des Algériens qui sont en France, mais ils ont une raison. Mais pour vous dire, ce n'est pas juste une attestation que vous allez à l'aéroport. Vous devez faire tout un dossier au consulat et vous attendez des semaines avant d'avoir la réponse, etc. Vous ne pouvez pas y aller du jour au lendemain.
Les pays autoritaires, effectivement, ont plus de facilité à cadenasser leurs frontières.
Bah, c'est ça le souci. C'est ça le souci. Et après, aujourd'hui, l'Algérie, c'est un peu l'extrême. Je demande pas à la France d'aller jusque-là. Mais voilà, regardez l'expérience anglaise. Les Anglais, ils ont dit du jour au lendemain, il y a un peu trop de cas en France, on va fermer un peu les frontières. Pourquoi on le fait pas? J'ai l'impression qu'on attend toujours les autres. Regardez avec AstraZeneca. L'Allemagne a dit, il y a un souci, je vais attendre quelques jours. La France tout de suite a dit « Ah, puisque l'Allemagne le fait, maintenant moi je le fais ». Pourquoi la France ne pouvait pas le faire dès le départ? Pourquoi elle attendait l'Allemagne?
Oui, mais là, le paradoxe, c'est qu'AstraZeneca, il n'y a pas de danger. C'est ça, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire que tu prends des décisions là où tu ne serais pas obligé de les prendre, et AstraZeneca est un bon exemple. Et en revanche, là, on n'est pas dans la mesure de protection. On n'est pas dans la... Évidemment, on est dans quelque chose qui, me semble-t-il, est essentiel. C'est-à-dire de stopper l'arrivée de variants brésiliens qui peuvent mettre en difficulté la santé française. Voilà.
On s'en aurait eu à 6 mois au téléphone, je vous aurais dit, mais non. C'est la même chose que j'avais dit avec le variant anglais à ma femme. Hein. Je lui ai dit, mais non, c'est juste qu'on a peur, hein, etc. Regardez aujourd'hui le résultat. Je me suis trompé sur toute la vie. Aujourd'hui, pourquoi on prend le risque avec le variant brésilien? Il y a un risque, on ferme.
Merci Salim. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, et puis j'espère que vous pourrez revoir votre maman peut-être avant la fin de l'année.
Oh, comme on dit chez nous, Inch'Allah, c'est le début du ramadan aujourd'hui.
C'était aujourd'hui ou c'est hier
c'est
le début. C'est aujourd'hui le début du ramadan. On salue tous les musulmans français qui nous écoutent et qui vont, pendant combien de temps, Salim ?
30 jours.
Qui vont pratiquer ce que les chrétiens ont pratiqué il y a quelques jours avec le carême. Et qui, dans toutes les religions, on retrouve souvent ces mêmes passages un peu obligés. Temps de réflexion et parfois de pénitence.
Et moi, c'est pas Dieu qui me surveille, c'est ma femme, si je le fais ou pas.
Écoutez, en tout cas, vous l'avez évoqué au moins 3 ou 4 fois, votre épouse, dans cette séquence.
Donc, je suis un peu le Colombo de Bois d'Arc.
Peut-être qu'elle vous écoute, Salim, attention.
Non, je sais. Elle écoute BFM TV.
Dites-lui déjà de changer de chaîne. Elle a le droit de rester sur RTL, mais qu'elle change de chaîne. Elle a le droit. Hein. Femme, Colombo, je suis sûr que vous allez trouver un petit extrait, Greg Cardoni. Ma femme, monsieur.
Ma femme, ouais.
Bon, merci Salim, en tout cas. Marc qui est enseignant, qui habite Belfort et qui veut également réagir sur cette affaire de variant brésilien. Bonjour.
Bonjour Pascal. Encore une fois, moi je suis déprimé par la nullité de ce gouvernement. Hein. On a retrouvé la 7e compagnie, et voilà, ils reviennent. C'est incroyable à croire qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. on a toujours, ils font toujours les mêmes erreurs. On va continuer, puis c'est ça enfin, quoi. Ce nouveau variant, si effectivement il est si dangereux que ça, on est reparti pour un tour. Enfin, c'est invraisemblable, quoi.
Alors, je précise qu'il est, il représente aujourd'hui 0,4% des contaminations. Hein. Christelle Robillard le rappelait tout à l'heure, c'est infime, 0,4%. Oui, mais c'est précisément parce qu'il fait 0,4%, peut-être qu'il faut le stopper.
Oui, c'est au début qu'on peut le stopper. Quand il fera 30%, on ne pourra plus le stopper. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un an, tout est parti de quelques dizaines de personnes qui se sont réunies à Mulhouse, ça a lancé toute la flambée de l'Est. Il faut pas 5 millions de personnes pour lancer une épidémie. Hein. Donc, si vraiment il est résistant, si vraiment il est dangereux, si vraiment le vaccin est inefficace dessus, mais qu'est-ce qu'on attend pour boucler toutes les frontières, y compris avec les pays qui ont peut-être des variants sur leur sol déjà brésilien. On ne peut pas. On est dans l'incapacité de faire ça. Alors, on nous dit que les gens vont peut-être passer par Lisbonne, etc. Enfin, écoutez, on va bientôt aller sur Mars. On peut quand même savoir si les gens viennent du Brésil et s'ils transitent par Lisbonne ou Munich ou je ne sais trop où. Enfin, c'est quand même invraisemblable.
C'est une réflexion de bon sens que vous portez et qui est portée ce matin dans l'opinion publique. Ce que vous dites là, je l'entends depuis ce matin, effectivement, ça paraît...
Non, le bon sens ne triomphe pas depuis un an. Hein,
non, c'est pas qu'il triomphe pas, c'est ce que disait tout à l'heure l'invité de Rosier, qui est un constitutionnaliste et qui était avec Christelle Robillard. À la fin de l'interview, tu comprends qu'il peut rien faire. C'est-à-dire qu'il peut pas annuler les vols, quoi, suspendre les vols, il dit que c'est pas possible. Il peut pas mettre les gens qui arrivent en quarantaine, parce que c'est pas possible, parce qu'on n'a pas les lois pour. Il te dit à la fin, il peut rien faire. C'est ça la conclusion.
Comment font-ils à Hong Kong ?
Ah ben, quand tu es dans des pays plus autoritaires et que tu as les lois pour, en fait, nos lois, elles ne sont pas faites, manifestement, c'est ce que je comprends, lois françaises ou lois européennes, elles ne sont pas faites pour la crise que nous traversons.
C'est quand même invraisemblable, parce qu'on n'arrête pas de changer les lois depuis 50 ans, les lois fiscales, les lois de... On restreint sans problème la liberté des Français depuis un an.
Ben oui, mais ce que disait Salim à l'instant, avec lui, il ne peut pas aller en Algérie, il faut un dossier... extrêmement complexe pour entrer en Algérie. C'est un État autoritaire souverain qui n'a de compte à rendre à personne. Nous ne sommes pas souverains. Notre souveraineté, elle a été perdue. Elle est parfois dépassée par l'Europe, quoi. Elle est gouvernée par l'Europe. Ouais. Pas sur tout, bien sûr, mais sur quelques sujets. Et effectivement, on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Bah, écoutez, la moralité, c'est que aux prochaines élections présidentielles, les Français peut-être voteront pour quelqu'un qui n'est pas maastrichtien, comme depuis 40 ans.
C'est possible, mais en même temps, vous savez, les Français, ils acceptent cette situation, hein, ils sont assez résilients, hein, c'est aussi... ils acceptent, les Français.
Tant que l'argent coule à flot.
Hein, oui, vous avez raison. Tant que tu payes, voilà. Tout va bien.
Voilà, tout va bien.
Merci Marc, nous sommes d'accord. Marc, vous êtes enseignant, je le rappelle. La pause et... que dire, Greg ? Que nous préparons peut-être le PSG Bayern, quand même.
Oui, on peut demander à Colombo si il vous a écouté sur les pronostics.
J'ai demandé à voir les enregistrements.
Ah oui, ça doit pas être folichon ça pour les pronostics de Pascal. Et qu'en pense votre femme ?
Oh, ma femme ne voudra jamais le croire.
Mais ça m'étonne pas.
Moi, ma femme, elle me croit. C'est tout ce que j'ai à dire. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et avec Laurent Tessier.
Et du football ce soir. Le Paris Saint-Germain peut se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Vainqueur à l'aller 3-2, les Parisiens vont-ils éliminer l'ogre Bayern Munich ? Une rencontre à suivre sur RTL à partir de 20h45. Venez donner votre pronostic. 2-1 pour Paris, nous dit Fred sur la page Facebook de l'émission. 1-0, but de Mbappé, écrit Jonathan. Nous attendons vos appels dès maintenant au 32-10. Et puis, Pascal, solidarité avec la ville de Beach en Moselle. Car sachez-le, Facebook n'a pas tout compris. La page de la commune a été dépubliée il y a presque un mois. L'algorithme du réseau social a confondu le nom de la ville Beach, B-I-T-C-H-E, avec une insulte. En anglais, Beach, on va éviter la traduction. Et la ville a dû créer une autre page Facebook, Maire 57230. Vous habitez la commune, et bien appelez-nous pour que Mark Zuckerberg vous entende. Solidarité, Beach.
Et vous avez oublié la fontaine, parce qu'on a inventé un nouveau thème il y a quelques secondes. La Fontaine est mort le 13 avril 1695. Quelle est votre fable préférée ? Donc ça, vous avez le droit de nous appeler. Pourquoi pas même de la réciter ? On apprenait des fables jadis. Olivier là, bonjour Olivier.
Bonjour Pascal.
Vous êtes ostéo à Levallois-Perret.
Absolument.
Ça c'est un métier aujourd'hui qui est en vogue.
Oui, on n'a rien fait pour, mais moi je suis un vieil ostéo. Au début on en a sué quand même. Hein. Pour nous c'est sympa ce retour de... en grâce.
Et alors les ostéos, effectivement vous faites des miracles de temps en temps.
De temps en temps.
Bah, bien sûr. Mais là, vous n'intervenez pas sur le variant, d'ailleurs. Vous ne pouvez rien faire sur le variant brésilien.
Alors si, détrompez-vous, on peut faire sur tous les variants. On peut rappeler aux gens que la seule façon d'attraper la Covid, c'est de ne pas avoir son masque.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, effectivement, ce n'est pas une spécialité de l'ostéopathie de dire ça.
Non, mais comme on a nos patients pendant au moins une demi-heure ou trois quarts d'heure, ils ont le temps de raconter ce qu'ils font. Et 95% de mes patients font au moins un déjeuner, un goûter, un apéritif par semaine avec des gens avec qui ils n'habitent pas. Ah oui, c'est-à-dire 100% de la population fait des bouffes.
Ah oui, il faut bien qu'ils vivent, Olivier. Qu'est-ce que les gens disent?
Ah mais non, Pascal, là, ce que vous me dites, c'est juste. La seule chose, c'est qu'on est tous en train de se dire « Waouh, ce variant brésilien qui, moi, me fait peur ». Ce qui nous protégera de ce variant, c'est qu'il soit moins contagieux que le variant anglais, ce qui permettra au variant anglais de garder le marché.
Mais s'il est aussi contagieux... Il l'est plus.
Et bien alors, je peux vous dire qu'on se rappelle dans 6 mois, et on a des tas de gens de 40 ans et moins de 40 ans qui sont à l'hôpital.
Bah ça, j'en sais rien, parce qu'on ne sait pas s'il est plus dangereux. Vous savez, au départ, on a dit que le variant anglais serait plus dangereux. À l'arrivée, il n'est pas plus dangereux. Là, les études viennent d'être promulguées, si j'ose dire, ces dernières heures. Donc, il n'y a même pas de discussion.
J'ai entendu sur votre radio, qui est une très bonne radio que j'écoute souvent, que pour l'instant, ils mettaient des gens de 40 ans sans facteur de risque à l'hôpital au Brésil. Et je répète... on peut faire tout ce qu'on veut pour essayer de raisonner un petit bout d'ADN qui ne raisonne pas, qui n'a pas de plan, qui n'a pas de volonté. Et donc on peut toujours dire, oui, au bout d'un an, j'en ai marre, je vais bouffer avec mes voisins. Je comprends très bien, et moi aussi, j'en ai ras-le-bol. Mais vous pouvez pas raisonner un bout d'ADN. Mais 20 cm carrés de tissu sur votre nez fait qu'aucun variant ne passera. Et moi, je vois mes patients pensent beaucoup plus que l'infection vient d'un toucher. Ils ont beaucoup plus peur de ce qu'ils touchent avec leurs mains, en se disant « ça, je fais super gaffe de ne pas mettre ma main sur mes yeux ou de bien les laver avant de manger quelque chose », ce qui ne sert à rien parce que c'est même pas 0,5% des contaminations. Mais ils acceptent très volontiers de retirer leur masque en présence de quelqu'un qu'ils connaissent bien, voire de la famille. Bon, on sait très bien que les clusters depuis 6 mois, ils sont tous familiaux ou amicaux.
J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, Olivier. Sur la situation en général et les mesures qui sont prises, vous avez un avis peut-être ?
Oui, tout à fait. Je pense que Castex et le président auraient dû passer à la télé en disant « Je vous ouvre tout. Musée, cinéma, alors sauf malheureusement les bars et les restaurants, puisque là on enlève son masque. Je vous lève toutes les structures qui vous enquiquinent. Mettez votre masque. Par contre, celui qui est pris sans masque, lui, il va en prison. »
Oui, bah ça, c'est...
Mais même, à la limite, il aurait fallu empêcher les gens d'aller chez eux, parce que dehors, on a tous le masque. Quand vous allez faire
vous voulez empêcher les gens d'aller chez eux? Ben, on va tous... Et on dort où? Alors, on dort dehors?
Mais c'était évidemment une blague, mais c'est le soir.
Mais la blague, la prison, c'était aussi une blague, rassurez-moi.
Bah, ça dépend. Si vous considérez que 350 milliards, c'est pas cher payé, que les gens veulent manger entre eux, je vous suis. Si vous considérez que c'est un peu cher payé, il y a des tas d'infractions où on faillit.
Écoutez, Olivier, c'est le principe de cette émission. Les auditeurs ont la parole, donc je vous laisse parler, si j'ose dire. Et j'interviens vraiment si vous dites des choses en dehors de la légalité. Après, moi, c'est votre avis. Il faut mettre les gens en prison s'ils ne portent pas un masque. Oui, on en est là. Je trouve qu'on en est là aujourd'hui, pour certains, on en est là. Mais ça ne m'étonne pas. Je trouve qu'il y a un climat qui est tel dans ce pays. Hier, c'était la délation. Et aujourd'hui, si on met les gens en prison quand ils ne portent pas de masque.
Pascal, juste pour terminer, et parce que évidemment c'est excessif, mais si vous mettez en parallèle 20 cm carrés de tissu, 350 milliards en échange, c'est quand même dommage qu'on le mette pas.
Mais les gens le mettent, le masque.
Non, Olivier.
Ils sont plutôt résilients.
Ils mangent tous une fois par semaine avec leurs cousins, leurs voisins, leurs amis. Et c'est là que vous trouvez les clusters. Pascal, j'adorerais, faites-moi plaisir. Vous avez le bras assez long pour ça. Trouvez-nous les statistiques de comment les gens ont attrapé la Covid sur les 3 derniers mois. Faites un truc.
Mais on le sait, honnêtement, souvent, c'est les enfants qui le ramènent. Hein.
Les enfants ne l'attrapent pas au lycée. Les parents le filent aux enfants et les enfants le ramènent au lycée. Mélangez pas tout. Au lycée, il n'y a pas de raison d'attraper le Covid.
Mais ils se le filent. Enfin, moi, j'en sais rien d'ailleurs. Mais j'écoute j'écoute ce qu'on dit et visiblement, les enfants, quand même, le ramènent à la maison. J'ai beaucoup de cas autour de moi.
Ils l'ont attrapé quelque part.
Ils l'ont attrapé
parce que les parents ont fait une bouffe avec la famille. Faites ça, je vous en supplie.
Écoutez, je vous assure, j'ai des cas que je connais où il n'y avait pas de dîner, au contraire, avec des gens très scrupuleux. Et je pense à un cas en particulier, et c'est un de ses enfants qui l'a ramené à la maison. Parce qu'il l'avait sans doute attrapé à l'école, sans doute.
Pascal, faites-moi plaisir.
Oui.
Pour trouver les chiffres, dites-nous dans 2 mois, j'ai regardé, ça fait 5 mois, où sont les clusters ? Je vous parie ma chemise contre 2 paquets de chamallows qui sont tous dans la famille parce que j'ai retiré
mon masque. Mais ça, on le sait qu'ils sont dans la famille. On sait qu'on l'attrape dans la famille. En tout cas, vous dites cluster, mais on l'attrape. Bon, Olivier, merci en tout cas. Merci
de m'avoir écouté.
Merci.
Et merci pour vos provisions de foot. Moi qui n'aime pas le foot, je vous adore, vous nous vengez.
Bah oui, mais je suis nul.
Mais c'est pour ça, je trouve ça génial.
Je suis nul en pronostic. Hein.
Mais c'est pour ça que c'est bien.
Alors, je pourrais...
Ah non, vous l'avez lancé.
Quoi ? Non. Je pourrais vous lire, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, c'est l'anniversaire de la mort de Jean de La Fontaine. Donc, je pourrais vous lire Les animaux malades de la peste, qui nous parle un peu. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste ! Puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Aquéron. Vous savez ce que c'est l'Aquéron ?
Non.
Ah, l'Aquéron, c'était le fleuve en Grèce, je pense, où on mettait les morts. L'Aquéron faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie, etc., etc. Les animaux malades de la peste, c'est formidable. C'est le plus grand styliste. Vous voyez, le styliste, c'est quoi ? C'est-à-dire que économie de mots absolue, rien acheté.
Il vous a pas beaucoup inspiré.
La pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous passez un coup de fil ?
Point, cher ami. Point, Laurent Tessier.
Nous vous attendons au 32-10 sur une question.
Non essentielle.
Non essentielle.
Oui, êtes-vous bricoleur ?
J'avais un marteau. Je cognerai le jour.
Le secteur du bricolage a bondi de 13% l'an dernier, une année record. Vous y êtes mis ces derniers mois, aussi bien monsieur que madame. Eh bien, accrocher un tableau, planter un clou, c'est mon niveau, nous dit Reynald sur nos réseaux sociaux. Le bricolage, c'est notre nouvelle activité avec madame, lance David. Et j'aimerais bien que monsieur s'y mette, nous dit Marie-Claire. Ça fait des semaines qu'il doit monter un meuble. Les cartons sont là dans le salon, mais rien ne bouge.
Ce sera le clou, évidemment, de notre émission que ce sujet sur le bricolage. Nous sommes avec Alexis. Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Vous êtes bricoleur, vous, Alexis ?
Ah ouais. Vous tombez bien, oui, je suis un ancien entrepreneur en bâtiment. Alors,
ah ouais, donc effectivement, là vous êtes...
Exit le sujet.
Donc, ah ouais, voilà. Vous êtes très bon, vous nous appelez pour nous parler du Brésil, mais bon.
Alors déjà, une petite aparté entre supporters du FCNA, pensez qu'on s'en sort cette année ou pas, Pascal ?
Je l'espère, je prie tous les soirs. Bon, mais il est excellent, Camboire,
oui,
mais c'est vrai, mais c'est difficile, c'est une saison difficile.
Ça va être compliqué. Bon, bref. Oui, alors moi, il m'est arrivé une seule anecdote, en fait, là, j'entendais des atermoiements du gouvernement concernant le fait de laisser pénétrer éventuellement des sujets brésiliens sur dans nos pays potentiellement malades ou pas d'ailleurs, de l'opportunité et du danger que ça pouvait représenter. Alors je vous avoue que, et est-ce qu'en termes de droit, c'est surtout ça qui m'interpellait, est-ce qu'en termes de droit le gouvernement français avait le droit d'entreprendre ce genre de mesures ? Alors je suis d'autant plus surpris je vous explique ce qui m'est arrivé. Moi, je me suis rendu assez récemment, j'ai voulu me rendre assez récemment en Turquie, rejoindre ma compagne, parce qu'en fait, on vit séparément dans des pays différents, donc je vous laisse imaginer comme ça peut être compliqué en ce moment. Elle est hors CE, donc voilà, très extrêmement compliqué. Ça fait grosso modo un an qu'on doit se voir et qu'on ne se voit pas. Donc, on découvre l'un et l'autre qu'elle a le droit de se rendre en Turquie. Et moi, a priori, de mon côté, je me rends compte que les autorités turques me demandent uniquement la présentation d'un test PCR et que les touristes sont effectivement autorisés à se déplacer librement dans une plage horaire dans Istanbul, de visiter la ville, tout ça. Donc, on convient d'un rendez-vous et d'un voyage là-bas. Je me présente à Orly à l'embarquement. Et alors là, je découvre qu'en fait, je ne peux pas embarquer parce que si j'embarque, en fait, je ne peux pas rentrer. Le gouvernement français, en fait, m'interdit de revenir sur le territoire français parce que je suis citoyen européen et que j'ai quitté les frontières de l'Europe. Voilà. Alors, évidemment, intermoiement avec les hôtesses à l'embarquement, tout ça, bon, qui vont prévenir ma situation, qui effectivement m'explique que je ne suis pas, d'ailleurs, je n'étais pas le seul dans la file non plus, hein, mais que je suis évidemment comme tous les Français qui envisageaient un voyage à Istanbul, je me suis fait avoir, aussi bien par ma compagnie aérienne qui ne m'a pas averti.
Mais c'était quand, ça, ce déplacement ?
C'était il y a une quinzaine de jours. Voilà.
Donc, c'était après les mesures de confinement ?
Ah oui. Non,
donc c'était après les mesures d'interdiction.
Non, juste avant les dernières mesures de confinement.
Vous aviez le droit, a priori, de faire plus de 10 km. C'était avant cela.
Ah oui, c'était bien avant ça.
Alors c'est ça que je ne comprends pas. Quelle est la motivation qu'on vous a apportée ?
Ah bah, c'est qu'on m'a dit qu'en fait, même si la Turquie m'autorisait à pénétrer sur son territoire en tant que touriste avec un test PCR de moins de 72 heures, l'État français, lui, me refusait de revenir sur le territoire français ou sur le territoire européen si je n'avais pas quitté le territoire européen pour des raisons, entre guillemets, de première nécessité.
Impérieuse.
Impérieuse.
Mais alors ça, c'était, je le répète,
avant. Jusque-là, à la limite, Pascal, moi, pas de problème. D'accord ? Ouais. Je me rends compte. Alors là, dans la fiche, je me dis, merde, j'ai fait une erreur. En fait, j'ai mal interprété les choses et tout ça. Je suis allé sur le site Ariane, quand même. Hein, il faut du gouvernement français, hein, quand même, pour le préciser. Un ministre à l'intérieur pour me renseigner, on m'a averti de rien, d'accord. J'ai dit que j'indiquais que je partais, donc c'était 3 semaines avant mon départ, j'indiquais que je partais sur telle destination et tout ça, que je partais dans telle destination, dans telle condition. Je n'ai jamais reçu un mail d'avertissement en me disant attention monsieur, n'oubliez pas qu'on va vous demander ceci ou qu'on exigera cela. Ma compagnie aérienne, pareil, d'accord. Donc en fait moi je me présente à l'embarquement, donc je n'embarque pas. Bon, soit, j'embarque pas, ok, il y a des règles. Mais là où ça pose un problème, et c'est là où je vais vous expliquer que là, on est vraiment dans une situation mais totalement ubuesque, et j'arrive pas à comprendre comment nos décideurs, nos politiques, nos hauts fonctionnaires qui votent ces lois, qui mettent en place ces mesures et tout ça, ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. C'est-à-dire que je vous explique le contexte. Moi, Français de souche, d'accord, je ne peux pas quitter le territoire européen et me rendre hors frontière européenne. Okay, sans quoi je ne reviens pas. En tous les cas, de toute façon, on ne me laisse pas partir. Donc le problème est clos. En revanche, dans la file, on est quand même 250 à 300 personnes. Et ça fait quand même 45 minutes que j'attends d'embarquer. Et je me rends bien compte que les gens autour de moi, ils ne partent pas tous pour des raisons impérieuses. D'accord ? C'est des familles, c'est des couples, c'est des amis, c'est des copains qui partent en week-end, c'est tout ça. Alors là, je m'interroge. Je pose la question quand même à l'hôtesse à l'embarquement. Elle me dit ouais, mais ça c'est la réponse. Ok, donc je fais demi-tour et là il y a quand même des gens visiblement qui faisaient le voyage régulièrement qui m'arrêtent et qui m'expliquent. Eux, ils ont la double nationalité.
Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'imaginais qu'ils étaient des binationaux. Pascal. Bah oui, mais c'est la loi.
Alors ils font le voyage tous les week-ends.
Mais
ok. Oui, mais autant de fois qu'ils le veulent, à toute la famille y va. Et nous, par contre, comme des cons français, eh ben on n'a pas le droit de bouger. Et là, on est en train de se demander si on va laisser rentrer des Brésiliens malades. Non, mais attendez. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez l'écart ? Vous voyez le grand écart entre
J'entends.
C'est proprement révoltant. Voilà.
J'entends, Alexis.
Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent tout, là. Il faut qu'ils ajustent leur curseur, qu'ils remettent tout à plat sur la table et qu'ils déterminent des lois qui tiennent la route, que les gens peuvent accepter. Tout simplement. L'acceptabilité.
Mais les gens, ils acceptent. Hein, c'est ça qui me frappe, moi. Dans cette, à chaque fois, je le dis tous les jours, mais les gens, ils acceptent. Il n'y a aucun mouvement de révolte. Hein. C'est ça qui est tout à fait fascinant, d'ailleurs, dans ce pays. C'est que tout le monde accepte et accepte depuis un moment. Hein. Alexis, il est parti.
Vous voyez, quand vous êtes, non, je suis là. Mmh. Quand vous êtes dans l'impasse comme ça et que vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes juste le dindon de la farce parce que il y a 250 personnes derrière vous qui sont exactement ressortissants français comme vous, qui ont fait leurs études, qui travaillent en France, qui sont citoyens français, qui ont une carte vitale comme vous et tout ça, qui vont pouvoir faire l'aller-retour, mais que vous comme un con, vous prenez votre taxi, que vous avez claqué 500 balles pour rien, billet d'avion, hôtel et tout ça, que vous rentrez chez vous.
ça crée quand même des frustrations.
Ce qui est étonnant. Mais il y avait beaucoup de gens comme vous qui, au dernier moment, ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas embarquer, parce que j'imagine quand même que les gens se renseignent
alors
peut-être.
Vous étiez le seul. Moi, j'en ai vu cinq.
Des gens qui n'étaient pas au courant.
Voilà, des ressortis français.
Ils n'étaient pas au courant. Donc ils sont allés à Roissy pour rien.
Il y avait deux couples. Deux couples qui partent en week-end, comme moi, ressortissants français.
Et oui, c'est ça que.
Il y avait moi, ok. Bon, moi j'y allais pour d'autres raisons, et non. Et il y avait aussi un jeune français, lui qui y allait pour bosser. Lui, ils l'ont kikiné. Pourquoi? Parce que la lettre de son employeur était manuscrite, d'accord, qui avait juste le tampon, mais qui n'avait pas d'en-tête. Donc le gars, il n'a pas pu embarquer.
Bon ben ok, ben merci beaucoup Alexis, parce que c'est des témoignages du quotidien qui sont souvent les plus intéressants d'ailleurs, c'est la vie forcément qui est rapportée du terrain. Merci beaucoup Alexis, il reste encore quelques minutes pour parler du variant brésilien et ensuite nous parlerons peut-être football et nous serons notamment avec Alexis Menuge qui est le correspondant d'RTL en Allemagne. Ils sont regonflés à bloc les Allemands, ils sont persuadés qu'ils vont gagner ce soir au Parc des Princes et puis peut-être que l'ami Christian Olivier passera à nous voir, je n'en sais rien puisque ce soir il sera à l'antenne à 20h45 avec Xavier Domergue, ce sera Philippe Sansfourche en direct du Parc des Princes, donc grande soirée ce soir sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Quelques minutes encore pour parler du Brésil avec Béatrice. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Et ben merci de vos émissions tous les jours que j'écoute avec attention sur tous les réseaux.
Ben vous êtes gentil.
Merci à votre équipe.
L'équipe est formidable, effectivement. Laurent Tessier, mais également au Standard, Cyranouche, Pierre-Louis, Olivier, Evan.
Voilà, tout le monde.
Sont absolument formidables.
La responsable du système.
Tous les jours.
Exactement, la responsable du système, comme vous dites, qui est là également. Que voulez-vous nous dire?
En fait, je voulais me concentrer sur le variant brésilien. Je veux dire, on ne va pas en finir avec tous ces variants. Je suis contre en fait d'arrêter les voyages en fait. Et puis je voulais vous demander si vous connaissiez l'application Flight Radar.
Flight Radar?
Ouais.
Non, mais je note en même temps. Flight comme avion, radar.
Voilà. Vous regardez le trafic aérien en fait aujourd'hui.
Ouais, ben je vais regarder tout de suite, tiens.
Voilà. Et donc moi je suis abonnée à cette application que j'ai pris sur mon téléphone.
Oui.
Cette application effectivement en mars l'année dernière vous aviez que des vols à un moment donné, on a mis 3 semaines avant d'arrêter beaucoup de vols.
Mmh.
Et vous vous rendez compte qu'en fait il y a énormément de gens qui voyagent partout.
Oui.
Et moi j'ai plein de copains qui voyagent partout. Il y en a qui passent des États-Unis au Brésil pour revenir en France. Il y en a qui passent.
Mais là, je vois plein de petits avions jaunes, par exemple. J'ai ouvert et j'ai plein de petits avions jaunes. Ça veut dire c'est tout l'avion qui est, tous les avions en ce moment qui sont dans les airs.
Voilà, c'est ça.
Donc en ce moment, par exemple, du côté de Nantes, là, il y a six avions en ce moment qui sont en train de voler, c'est ça?
Voilà, oh, six, ben, y en a plus. Quand vous regardez, si vous réduisez un peu la carte, vous allez voir, il y a beaucoup d'avions qui ouvrent. Alors, il y en a vraiment six,
là, c'est très... Ils sont en direct, si j'ose dire.
Ils sont en direct, voilà.
Ah oui, et c'est drôle, ça. Alors à Paris, par exemple, en ce moment, je veux dire, à Paris, en ce moment... Il y en a, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pas mal. Là,
il y en a pas mal. C'est intéressant cette application.
Ah oui, c'est tout à fait intéressant, voilà. Comme vous dites.
Et moi, j'ai des copains un peu partout dans le monde entier. J'ai ma fille qui est aux États-Unis depuis un an que je n'ai pas vue. Et voilà, je me dis, variant brésilien, variant anglais, variant breton.
En Angleterre, il y a plus d'avions. Hein.
Voilà, donc je pense que le variant brésilien, si vous voulez, à mon avis, il n'est pas plus dangereux que le variant anglais. Et puis j'ai une chose à dire, en fait. Je pense que maintenant, il faut croire en notre système immunitaire et il faut croire que ce système immunitaire, il est capable, il est conçu pour contrer ce Covid qui est en fait encore là. Mais il y a d'autres maladies qui sont là. Donc le variant brésilien, faut pas arrêter les vols du Brésil, parce que de toute façon, on n'a aucun moyen en France de contrôler la situation. C'est pas une critique, c'est un constat. Hein. On n'a pas de moyen de contrôler. On peut pas suivre les téléphones portables comme le font les États-Unis ou la Suisse ou la Chine ou certains pays. Mais si vous regardez autour de vous dans le monde, parce que c'est ce qu'il faut regarder. Moi, je regarde toutes les chaînes d'infos, mais je regarde aussi ce qui se passe dans le monde. Je suis désolée, mais je veux dire, il y a beaucoup d'ouvertures partout, en fait. Il y a beaucoup de gens qui réouvrent. Il faut croire en notre système immunitaire. Il est conçu pour ça.
Ben oui, mais ça, c'est pas la tendance. En tout cas, je viens...
Je ne suis pas épidémiologiste.
je viens de mettre en place sur comme application.
Ouais. Voilà. Abonnez-vous parce qu'il y a une application gratuite et payante. Et la payante, bon, la payante, c'est parce que vous voyez les avions sur le tarmac.
Ben oui, non, mais là, c'est. Moi, je les ai, là. Flight Radar. Alors, ça, vous nous avez appris quelque chose et je vous
non,
en.
Mais c'est parce que j'aime bien les avions et que je suis fan d'aviation et que j'ai cette application téléchargée depuis longtemps.
Eh bien, merci, Béatrice, de cela, parce que c'est assez étonnant, effectivement, de voir tous les avions qui sont en l'air, en tout cas,
et
en partance.
Il y a beaucoup d'avions en l'air et puis il y a beaucoup de gens qui voyagent. Et puis, malheureusement, mais c'est. Je veux dire, on ne va pas toujours acculer le gouvernement. On n'a aujourd'hui pas les moyens de savoir s'il y a des gens qui arrivent vraiment du Brésil ou pas.
Eh bien justement, Patrick sera le dernier pour nous parler du Brésil et il habite d'une ville particulièrement aérienne, c'est Toulouse. Bonjour Patrick.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci. Un dernier témoignage peut-être du Brésil.
Oui,
votre fils est au Brésil.
Ah ben mon fils vit au Brésil depuis 12 ans.
Oui.
D'accord. Je vais passer à moyenne 4 mois par an au Brésil. Donc là, je vais partir au mois d'octobre. C'est pour ça que je me fais vacciner Pfizer là en ce moment, parce que je pense que c'est le seul qui soit vraiment efficace sur le variant brésilien, et avec un point d'interrogation, surtout qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a quand même 87 mutants qui ont été reconnus au Brésil, c'est-à-dire que c'est pas un variant, c'est 87 qui se promènent. Bon, moi, je suis des infos du Brésil tous les jours. J'ai eu mon fils hier soir. On a eu une discussion. Bon, il est français, donc il est motivé comme moi. C'est-à-dire, il raisonne français. Il porte le masque depuis le mois de mars l'année dernière. Il désinfecte tout. Le seul problème qu'ils ont au Brésil, ce qu'il me disait hier soir, papa, les Brésiliens, ils n'en ont rien à foutre de la Covid. Ils sont dehors, les plages. Les restaurants.
Mais ça dépend où, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des États qui sont fermés. Mais je vous interromps parce que ça va être le flash. Et vous pourrez continuer juste après. Et le flash dans une seconde de 14h, on parlera évidemment football, mais on terminera, c'est promis, avec Patrick qui va nous éclairer dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
RTL. Il est 14h. Et Patrick nous attend encore pour parler du Brésil et notamment de son fils. Mais d'abord le flash avec Vincent Serrano.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La France va-t-elle fermer ses frontières avec le Brésil? C'est en tout cas ce que demandent aujourd'hui plusieurs élus de l'opposition. Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, juge cette fermeture utile et absolument nécessaire. Le chiffre des décès en Amérique du Sud s'affole. Le nombre de voyageurs en provenance du Brésil est déjà passé de 50 000 à 1 000 par semaine. Il faut aller plus loin, alerté ce matin sur RT. Rémi Salomon, le président de la commission médicale d'établissement de la PHP, souhaite l'instauration d'une mise en quarantaine de tous ses voyageurs pour contrer l'avancée du variant brésilien. Les États-Unis préconisent une pause dans l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson, annonce du régulateur américain suite à l'apparition de plusieurs cas de caillots sanguins sur des personnes vaccinées. L'Europe continue, elle, ses investigations. Jean-Michel Blanquer, cas contact mais testé négatif. Le ministre de l'Éducation nationale s'isole et poursuivra son travail en visioconférence. D'après le ministère, il ne souffrirait d'aucun symptôme. Télétravail donc pour le ministre dans l'attente des résultats d'un nouveau test. Alexandre Benalla renvoyé en correctionnel pour des violences commises le 1er mai 2018 sur des manifestants. Trois autres personnes doivent également être jugées pour des faits commis place de la Contrescarpe à Paris. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron devra notamment répondre des chefs de violence réunion et port d'armes de catégorie B. Les régionales décalées d'une semaine. Le Parlement planche sur la question aujourd'hui et demain avant une prise de parole du Premier ministre. Initialement prévu le 20 juin, le second tour aurait lieu le 27 juin. L'objectif affiché par l'exécutif, gagner une semaine de vaccination, sécuriser davantage la bonne tenue des scrutins. Bonne nouvelle pour Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. PSG Munich, match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. Vainqueur à l'aller 3-2, les Parisiens ont encore une toute petite marche à gravir pour accéder aux demi, où ils pourraient affronter le vainqueur d'un autre quart entre Manchester City et Dortmund. La météo cet après-midi entre soleil et nuages au nord jusqu'au Jura, soleil plus présent partout ailleurs. Quelques averses localement à vous signaler si vous habitez dans le sud des Alpes ou la Corse. Les températures, elles restent fraîches entre 9 et 19 degrés. 12 à Paris, 14 à Nantes, 16 à Bordeaux ou encore 17 à Marseille. Les courses, ça se passait à Chantilly. Je vous donne le résultat à l'arrivée provisoire. Le 9, le 7, le 4, le 3, le 10. Je répète, le 9, le 7, le 4, le 3 et le 10. RTL, il est 14h02. C'est à vous, Pascal.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Merci Vincent Serrano et nous étions donc avec Patrick dont le fils est au Brésil et on a achevé la conversation. Patrick disait, son fils lui dit au Brésil il s'en fiche, tout est ouvert et ça. Et je lui disais, c'est pas exactement ça. J'ai cité tout à l'heure l'état du Ceará qui est un état du Nord-Est et tout est fermé et c'est un gouverneur qui applique le confinement avec un couvre-feu, je crois à 19h.
Bon, alors je vais vous contrarier, monsieur Pro, c'est pas le but, mais sachez que, bon, vous savez, le Brésil, c'est des États fédéraux comme aux États-Unis, avec des gouverneurs dans chaque État. Depuis un an, les gouverneurs décident de faire un lockdown, c'est-à-dire de tout fermer, d'accord ? Et ils ont malheureusement, à la tête de l'État, un vrai scellé, comme dirait mon fils, qui s'appelle Jair Bolsonaro, qui, lui, a le droit de mettre à la rue les décisions des gouverneurs. Et lui a pris comme décision de ne jamais rien fermer. Donc, les gouverneurs ferment, et M. Bolsonaro dit non, on laisse ouvert.
C'est pas le cas de l'État du Ceará, hein, je vous assure, j'ai eu un témoignage aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, je connais
écoutez,
pas...
Mon fils, dans le Rio Grande del Norte, c'est tout à fait un mot, natal, c'est le coin le plus touristique d'ailleurs, c'est là où tous les gens vont à la plage. Il a été fermé depuis un an, il est toujours fermé, l'État. Le gouverneur a pris des décisions, il le ferme. De toute façon, le seul problème qu'il a, c'est comme dit mon fils, il faudrait mettre l'armée dans la rue aujourd'hui. Parce que de toute façon, les Brésiliens, un fonctionnement qui n'est pas le nôtre, hein, ça s'est passé déjà en très différent de nous. Moi, j'y vis 4 mois par an, donc je les connais bien. Eux, ils sont dehors, ils s'occupent de rien, ils s'en foutent comme de leur première chemise. Bolsonaro explique à tout le monde que de toute façon, le Covid, c'est un mort sur 5 par jour. Il y a 5 morts par jour au Brésil, il n'y en a qu'un du Covid. Donc, on ne va pas. Il faut. Lui, c'est l'économie.
Quand non, mais Patrick, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est tout à fait étonnant, et moi, je n'ai pas de réponse à ça, il y a 220 millions d'habitants hein, au Brésil.
Oui,
il y a 350 000 morts, c'est le même rapport que nous.
Mais je suis d'accord avec vous, monsieur.
Nous, on a 66 millions et on va arriver à 100 000. C'est le même rapport.
Monsieur Pro, moi, ça fait un an que j'essaie de vous parler du Brésil. Bon, c'était pas vrai. Là, cette fois-ci, vous êtes vraiment dessus. Donc, vous m'avez pris, ça me fait plaisir. Parce que chaque fois, moi, je suis. Tout le monde dit pareil quand j'en parle avec mes amis. Moi, j'étais en fac de médecine quand on a eu la grippe de Hong Kong. D'accord ? Il y a eu 1,5 million de morts dans le monde. On n'était que 2 milliards. Aujourd'hui, on est à 3 millions dans le monde et on est 7 milliards. Quand on fait le ratio, on peut dire que la Covid, elle a tué beaucoup moins.
Mais on sait combien il y a eu de morts en France avec la grippe de Hong Kong ? Parce qu'on a des statistiques.
Pas loin de 50 000 morts.
Et oui, c'est ce qu'on dit.
Et les gens, ils étaient dans les couloirs des hôpitaux, morts par terre. Hein. C'était de la folie. Et nous, en fac de médecine, on n'était même pas au courant qu'il y avait la grippe de Hong Kong.
Mais c'est, écoutez, moi j'en ai parlé à ma famille, personne ne se souvient de cet épisode. C'est fascinant.
Mais personne, parce qu'on n'avait pas toutes les chaînes d'infos. Et puis aujourd'hui, comme me disent tous mes amis, qu'il y en a encore certains qui sont toujours en train d'exercer au SAMU ou dans certaines cliniques, ils me disent aujourd'hui, les gens ne supporteraient pas ce qui s'est passé à cette époque-là.
Ah ben oui, ça c'est sûr, Patrick. Voilà, et puis avec les chaînes d'infos et l'information, le public,
sûr,
l'opinion publique. Bon, ben merci en tout cas, c'est vraiment intéressant. Essayez de
non,
nous.
Mais franchement, je vous assure, le Brésil, c'est un autre. Moi, j'y pars au mois d'octobre. Là, je me suis fait vacciner Pfizer. Mmh.
Si vous y arrivez, hein, je suis pas sûr. Hein.
Ah, mais si, avec un carnet de vaccination, je rentre.
Ah non, mais
au
je pense qu'on va pas pouvoir bouger. Moi, je vous assure, je pense qu'on peut. Je le dis tous les jours, hein, je vais affoler personne. Je pense qu'on pourra pas bouger cet été. Je pense que rien ne sera ouvert cet été et je pense que tout sera fermé cette année.
Donc ah voilà, vous comme ça. Vous n'êtes pas optimiste.
Moi, mais non, mais moi, je vois. On a mis le doigt dans un engrenage qui, à mes yeux, est mortifère. Donc, voilà, ça va être le variant brésilien et puis ça sera le variant truc-muche.
Ben voilà, des variants. Je vous dis, il y en a quatre, ils ont découvert 87 variants.
Je pense qu'avec. J'en ai peur, hein. J'espère me tromper.
Ben,
mais bon.
On va arriver à vivre avec. Je pense que, d'ailleurs, on le voit, hein, les jeunes, ils sortent comme des fous.
On peut aller nulle part. Vous savez qu'aujourd'hui, ça fait 6 semaines pile que Emmanuel Macron avait dit le 1er mars, encore un effort pendant 6 semaines et il y aura des assouplissements. On y est pile aujourd'hui, on est le 13 avril. Pile, oui, ça non, fait 6 semaines. Il n'y a rien. Et le 15 mai, les restos ne seront pas ouverts.
Non, et le 15 mai, ce ne sera pas ouvert.
Et le 15 juin non plus.
On a intérêt, même s'il ouvre au 15 juin, on a intérêt à garder des, quelques petites choses, parce que moi, j'étais, l'été dernier, j'étais sur l'océan, ça a été l'orgie totale. Quoi.
Vous étiez où?
J'étais à la Canomo, c'était de la folie totale.
L'orgie, ça a mis un grand mot, mais bon, parce que j'y étais parfois sur l'Atlantique. Non, mais orgie, c'est un peu fort. Mais c'est vrai que les gens, ils ont envie de vivre, enfin. On n'a jamais vu ça,
mais
quand même.
Mais moi, je trouve ça normal. Moi, je peux vous dire que j'aurai 25 ans, vous ne m'enfermez pas à la maison la nuit. Hein. Je sors comme d'habitude, hein. Ça, c'est une certitude. Mais bon, j'en ai 72, alors aujourd'hui, je suis très sage. Je vis sur un golf.
Il faut pas. Il faut pas être sage.
Voilà, non mais bon. Si, être sage, je m'entends bien, 72 ans, il faut essayer d'être raisonnable. Si on n'a pas les mêmes envies qu'à 25, hein, c'est clair.
Bon, je vois ce à quoi vous parlez, à quoi vous pensez. Merci Patrick.
Patrick. Allez,
ok, comme vous dites. Merci beaucoup. Il est sympathique, Patrick.
Très sympathique. Si vos pronostics concernant la réouverture des restaurants est aussi bonne que vos pronostics pour le football, on a plutôt bon espoir.
Qu'est-ce que vous êtes méchant aujourd'hui? Oh, c'est, vous y pouvez rien. Vous êtes comme ça. Ouais. Vous êtes méchant. C'est pas ta faute. T'es méchant. C'est pas.
Voilà, si on se base sur le principe qui aime bien, châtie bien, je vous aime énormément.
Alors ça me plaît davantage. Est-ce qu'on peut mettre l'hymne du Paris Saint-Germain? Parce que là, on va parler football avec Jean-François qui nous attend, avec Guillaume. Et c'est ce soir à 20h45, le match entre Paris et le Bayern. Après la pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
C'est vrai qu'une quart de finale de Ligue des Champions sans public, quelle tristesse au Parc des Princes. Ce devrait être la fête ce soir, on ne devrait parler que de ça, parce que le public évidemment est un élément constitutif de nos soirées, de la vie d'avant. Quelle tristesse que cette époque et que ce monde. On est avec Jean-François, Paris Saint-Germain contre le Bayern, on va le vivre quand même parce que ça nous fait plaisir. Mais c'est pas comme avant, comme dit la chanson de Berger, c'est pas comme avant.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Alors moi, mon pronostic, c'est 3-2 pour le PSG ou 3-1 pour le PSG.
Donc qualifié.
Oui, il y a une raison toute simple, et vous allez la comprendre, c'est que le Bayern va être obligé d'attaquer pendant tout le match pour essayer d'égaliser, de marquer 2 buts, puisqu'il faut qu'il gagne 2 buts d'écart. Et on sait très bien que si les transmissions de balles entre les joueurs du PSG se font très très bien, on a les joueurs pour faire des contre-attaques. Donc une contre-attaque veut dire qu'Mbappé, Neymar et les autres vont se régaler, puisque on sait que la défense du Bayern est très mauvaise, enfin, est pas bonne. Donc, si les joueurs de Bayern attaquent pendant 90 minutes, les contre-attaques du PSG vont être mortelles. Et on n'est pas à l'abri non plus d'un carton rouge pour le Bayern. Et on n'est pas à l'abri d'un pénalty non plus, parce que pour arrêter Mbappé, si on fait pas une faute, c'est impossible. Donc, en contre-attaque, on a les joueurs pour pouvoir rivaliser largement et puis marquer des buts.
Bah, écoutez, vous êtes optimiste. Alors, on est avec Alexis Menuge et puisque vous écoutez régulièrement RTL, vous savez que c'est notre correspondant football, notamment à Munich. Bonjour Alexis.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Manifestement, les Bavarois sont remontés comme des pendules et n'imaginent pas ce soir autre chose que la qualification.
Exactement. Depuis, en fait, le coup de sifflet final il y a 6 jours à Allianz Arena, on rappelle, hein, Pascal, ce match assez fou. 3-2 pour les Parisiens, alors que les Munichois ont tiré 31 fois au but de Keylor Navas. Et puis, un gros problème d'efficacité dans les rangs bavarois et devant et puis en défense, puisque c'est vrai que, comme le disait Jean-François, je crois, sur le plan défensif, les Bavarois ont été très, très fébriles. Et comme depuis le début de saison, plus de 50 buts encaissés, c'est un peu indigne d'un club de ce standing. Mais néanmoins, ils sont remontés comme des pendules ce soir et ça fait partie de la culture du club de toujours croire en soi. Ce n'est pas du tout de l'arrogance. Je sais qu'en France, on parle un peu d'arrogance allemande, mais c'est dans leur gène, hein. C'est leur ADN, en fait. Et ce soir, ils vont aborder ce match plein de confiance, plein de détermination. Et le passé montre également que ces Allemands, ils croient toujours en eux. Donc le coup de sifflet final n'est pas donné.
Mais Jean-François, vous n'avez pas peur avec la défense parisienne, c'est-à-dire Dagba, Pereira, Kimpembe et Diallo. Moi, j'ai un peu peur face à l'attaque de Barcelone qui va envoyer du lourd, comme on dit.
Oui, c'est possible, mais il ne faut pas oublier que le Bayern doit marquer 2 buts de plus que le PSG. Donc, si on finit avec un score de 3-2 pour le Bayern, le PSG est qualifié. Donc,
non, mais je suis d'accord. Mais devant, vous allez avoir Sané. Hein, Thomas Müller sera là, sans doute. Oui. Coman, évidemment. Et Choupo-Moting. Choupo. Donc, c'est avec, devant la défense parisienne. Moi, parce qu'il manque Marquinhos, hein, quand même. C'est pas rien, Jean-François.
Je suppose que les milieux de terrain et certains attaquants vont quand même aider la défense. Donc, ils vont
rentrer ouais, devant. Pavard, Boateng, Lucas Hernandez, Alphonso Davies. Je suis un poil inquiet, Jean-François. Alors, Guillaume est là aussi. Guillaume, qui habite Lyon. Bonjour, Guillaume.
Oui, bonjour, Pascal.
Votre avis ?
Bonjour.
Alors, bonjour, bonjour.
Bonjour. Alors, moi, je pense, effectivement, j'étais déjà intervenu la semaine dernière. Je pensais qu'on allait gagner, effectivement, 3-1. Je pense que la victoire ce soir sera difficile, effectivement, compte tenu de. Bon, de c'est une équipe piquée au vif et un peu vexée. Je pense que Paris se qualifiera malgré tout ce soir. Je vois, pour moi, une victoire du Bayern 2-1. Je rejoins votre point sur le fait qu'il va manquer peut-être Marquinhos, mais on a aussi un milieu qui va être plus solide et probablement avec la présence de Verratti qui va nous aider. La difficulté pour Paris peut se retrouver, comme on l'a vu dans certains matchs, notamment contre Lille, quand ils sont un peu pris à la gorge assez vite, etc. Et peut-être avec aussi le traumatisme peut-être passé ou même du match retour contre le Barcelone. Bon, je pense que Paris est quand même préparé, s'attend à des offensives très fortes. C'est vrai que la défense peut laisser à craindre. Si on a un super Navas qui peut nous sauver comme la semaine dernière, tout peut passer. Mais ça sera effectivement difficile. Je vois quand même effectivement une victoire courte, mais avec effectivement quand même un PSG qui
qualifie aussi. Bon, Alexis, ouais, votre sentiment, vous qui suivez, parce que l'équipe de Munich a fait match nul en championnat ce week-end.
Oui, ça veut rien dire parce que l'entraîneur avait fait tourner son effectif et plusieurs joueurs importants étaient restés au repos sur le banc. Donc, comme on dit en Allemagne, ce que le Bayern joue le samedi en 3 jours ou 4 jours plus tard en Ligue des Champions, c'est presque un autre sport parce que psychologiquement, ils abordent ce match-là vraiment.
Mais il y a un précédent du Bayern battu à domicile par un grand d'Europe et le Bayern qui va se qualifier à l'extérieur.
85-86, Coupe de l'UEFA.
Oui, donc ça fait un moment quand même, c'est pas tous les jours. Oui.
C'est rare que le Bayern perd à domicile un match aller. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de précédents et les remontadas, on ne connaît pas trop ça dans l'histoire du Bayern. Mais voilà, ils sont vexés dans leur orgueil, ils savent qu'ils ont perdu ce match aller à cause d'eux. Et
la Neuer n'a pas été très bon en plus. Hein.
Non, mais il ne sera pas deux fois.
Hein, c'est de Mbappé, il n'est pas
c'est à cause de la neige.
C'est à cause de la neige, il y a toujours des bonnes raisons. Mais bon,
Thomas Müller a dit, Pascal, si le Bayern ouvre le score, les Parisiens vont commencer à paniquer.
Ce qui est vrai.
Oui, bien sûr. C'est un peu leur défaut, leur principal point faible. Par contre, si les Parisiens marquent en premier, ça sentira bon pour aller en demi-finale pour la deuxième fois de suite.
Oui, c'est un peu la palissade en même temps. Évidemment, forcément, mais ça va être intéressant. Moi, je suis inquiet pour les Parisiens, mais je vous dis, je me trompe tout le temps. Bon, Guillaume et Jean-François, merci.
Si je peux juste intervenir, je suis...
Jean-François,
Oui, je ne suis pas persuadé. Je suis persuadé d'une chose, c'est que si Mbappé arrive à partir régulièrement en contre-attaque, je ne suis pas sûr qu'il y ait un joueur du Bayern qui finisse avec un carton rouge. Parce que pour stopper Mbappé, s'il y a un joueur du Bayern qui pète les plombs et qui lui fait le foch ou lui fait une...
Alexis,
grave...
qui va être sur Mbappé ?
Notre ami Benjamin Pavard, a priori. Ou alors, si Mbappé évolue à droite, ce sera Alphonso Davies. Et là, on aura un vrai duel parce que le Canadien est très, très, très rapide. Mais je pense, connaissant Pochettino, c'est quelqu'un de très intelligent et tactiquement, il faudrait avoir Pavard en face, même si le Français a fait un bon match aller. Mais il est moins rapide que Davies et beaucoup moins, bien sûr, que Kylian Mbappé.
Eh bien, merci. Vraiment, merci Guillaume, Jean-François. Merci Alexis Menéa-Huge. Et on suit donc ce soir à partir de 20h45 sur l'antenne d'RTL. Dans une seconde, on va parler des fables de La Fontaine, puisque c'est l'anniversaire de la mort de La Fontenaire, de La Fontaine. Et on va célébrer cette année également les 400 ans de sa naissance. Donc, quelle est votre fable préférée? C'était la question qu'on a posée tout à l'heure et Hervé et Ginette vont y répondre. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Ginette, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ah, merci, Ginette, d'être avec nous.
Je vous écoute tous les jours depuis longtemps. Nous vous écoutions également avec mon mari qui est décédé il y a 2 mois. Mais enfin, il avait 93 ans, j'en ai 92, et j'ai 3 petits-enfants adorables. Et souvent, je leur parle du travail, bien qu'ils ont beaucoup travaillé, ils sont quand même arrivés. J'ai beaucoup de chance d'avoir des petits-enfants comme ça. Et j'ai une fille et un beau-fils qui m'aident beaucoup. Je voulais simplement vous parler de cette fameuse fable que j'ai retenue parce que je les connaissais presque toutes par cœur. À l'école, c'est ce que nous apprenions. Je peux vous la dire, monsieur ?
Mais bien sûr, avec plaisir.
Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa fin prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès que l'on aura fait loutre. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor.
C'est un génie, la Fontaine. Et puis vous l'avez formidablement dit, Ginette.
Bah écoutez.
Mais non, mais c'est... Alors, vous l'avez prise il y a très longtemps, j'imagine ?
J'ai dû l'apprendre à l'école primaire.
Et là, vous l'avez dite...
Voilà, mais j'ai le livre illustré par Gustave Doré, oui. Toutes les fables de La Fontaine. C'est un très beau livre qu'on m'a offert.
Et vous lisez parfois La Fontaine ?
Oui, il m'arrive.
Bah merci vraiment beaucoup, Ginette, parce que c'était très...
Excusez-moi de vous avoir dérangé.
Mais non, vous ne me dérangez pas du tout. Et puis, ce que vous dites était très joli et très tendre. Et je suis sûr que ça a touché la manière dont vous avez évoqué la mémoire de votre mari, puis de la manière dont vous avez parlé de vos petits-enfants. Donc, vraiment, merci. Et puis, voilà. Merci beaucoup à Ginette.
Merci, monsieur.
Merci Ginette. Hervé, pour quelques secondes, votre fable préférée, c'est le corbeau et le renard et la cigale et la fourmi.
Oui, mais particulièrement le corbeau et le renard.
Pourquoi ?
Parce qu'on parle de fromage et je suis du pays du fromage. Je suis du Cantal, donc forcément. Et en plus, je trouve que se défaire d'un fromage pour autant de vanité, c'est extraordinaire. Il ne faut pas être gourmand. je l'ai appris à mon petit-fils. C'est une des premières que j'ai appris à mon petit-fils. À un de mes petits-fils, puisque maintenant il y en a deux. Voilà.
Donc vous nous dites quelques phrases ?
Oh oui, maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Formidable. Voilà. Et on apprenait ça par cœur. C'est peut-être la fable la plus connue de Jean de La Fontaine, parce qu'on l'a tous appris. Elle est courte. Vous l'avez très bien dite également. Bravo à vous, Hervé et Ginette. Merci pour La Fontaine. Laurent Tessier pour le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
La France se protège-t-elle assez du variant brésilien ? Actuellement, il représente 0,4% des contaminations dans notre pays. Faut-il vraiment s'en inquiéter ? Le sujet a inspiré Alexandre.
Je ne peux pas aller voir mes parents qui sont à 45 km et qui sont vaccinés, moi aussi vacciné, mais on peut venir du Brésil, donc tout est normal, ça continue.
Et la fermeture des frontières alors ? Cédric est policier en ce moment, quelle est la situation ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de personnes qui rentrent, mais les frontières sont quand même des gruyères encore, faut pas se leurrer. Donc les gens qui veulent venir en France, Ils viendront quand même. On n'est pas dans l'action, on est dans la réaction par rapport au Covid.
Bon, au final, là, Pascal, vous n'aviez pas le moral aujourd'hui. Exemple à midi.
On a le sentiment ce matin que c'est sans fin.
Et à 12h30, dans quel état d'esprit étiez-vous ?
Face aux variants brésiliens, c'est sans fin.
Oui, toujours sans fin. À 14h, c'était aussi joie-bonheur.
Je le dis tous les jours, hein, je vais affoler personne. Je pense qu'on ne pourra pas bouger cet été. Je pense que rien ne sera ouvert cet été. Et je pense que tout sera fermé cette année.
Il y a de la joie.
Oh, on s'éclate. Sinon, Salim, tout va bien en ce moment à la maison ?
Moi, c'est pas Dieu qui me surveille, c'est ma femme. Donc, je suis un peu le Columbo de Bois d'Arc.
Ma femme ne voudra jamais le croire.
Et vous, Pascal, est-ce que c'est aussi la fête à la maison ?
Moi, ma femme, elle me croit. C'est tout ce que j'ai à dire.
Eh bien, je vous en prie. Aujourd'hui, rendons hommage aussi à la langue française, aux belles paroles.
Le 13 avril 1695, disparaissait Jean de La Fontaine. Quelle est votre fable préférée ?
Allez-y, lancez-vous, amis. Emmenez-nous au pays de la poésie.
Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste !
C'est cela, oui. C'est cela, oui.
Mais ce qu'on aime par-dessus tout, ce sont vos pronostics.
Football ?
Oui, quart de finale retour de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, à suivre à partir de 20h45, ce soir sur RTL. Et après cette analyse très profonde la semaine dernière au match aller, souvenez-vous.
Bah, le PSG, ce n'est sinon un échec, du moins c'est une déception sportive. J'ai peur que cette mosaïque de joueurs qu'est le PSG explose en vol face au Bayern.
Et bon, lancez-vous pour le match retour.
Je suis nul en pronostics.
Oh, allez, pourtant Olivier au 32-10 adore quand vous vous lancez.
Merci. Et merci pour vos provisions de foot. Moi qui n'aime pas le foot, je vous adore, vous nous vengez.
Bah oui, mais je suis nul.
Mais c'est pour ça que c'est bien.
Et c'est pour ça qu'on vous aime. Et puis, une question.
Non essentiel.
Non essentiel.
Êtes-vous bricoleur ? Le secteur du bricolage a bondi de 13% l'année dernière, une année record. J'avais un marteau. Un commentaire sur le sujet, Pascal ?
Je ne me sens pas vraiment concerné, pour des raisons évidentes d'ailleurs.
Dans ces cas-là, une question à poser ?
Si vous savez planter un clou, pourquoi pas, donnez-nous des conseils.
Et sinon, le mot de la fin ?
Ce sera le clou, évidemment, de notre émission.
Oh ! Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte, actualité oblige, avec une chanson qui nous rappelle le Brésil.
La vie flamande dans une seconde.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.